Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, bienvenue dans cet atelier du violon baroque. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
On peut pas vraiment comprendre pourquoi on est allé vers des instruments qui sonnent de plus en plus fort. C'est le goût du public peut-être qui a évolué, les circonstances dans lesquelles on faisait de la musique, des concerts dans des salles de plus en plus grandes, qui ont privilégié les instruments tout simplement qui sonnaient plus fort. Je dirais plutôt qu'on apprend en fabriquant des instruments anciens à apprécier les qualités d'instruments qui sont aujourd'hui oubliés, qui ne correspondent pas à un standard. On aime de plus en plus le son de la viole quand on en construit, quand on la découvre. Et on oublie au bout d'un moment que c'est un instrument qui sonne moins fort, plus nasillard que le violon. On aime ça de plus en plus.
C'est ce qu'on comprend chaque matin un peu plus, David Mestri, bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
C'est qu'il y a une culture de la sonorité baroque à acquérir, puis à approfondir, à faire s'épanouir. Un son baroque, c'est un son qui doit devenir de plus en plus familier. On le comprend dans cet atelier de lutherie d'un côté, tel qu'il a eu lieu, cet atelier de musique ancienne en septembre à Gruyère. On s'en rend compte dans l'instrument à fabriquer, toujours plus près de l'original. Et puis on s'en rend compte de l'autre côté, au gré des concerts que vous nous présentez, qui avaient lieu dans ce même festival, David Mestri.
Voilà, les concerts qui étaient signés de l'archet des plus grands violonistes anciens qui se sont appropriés entièrement ce style et tout ce qu'il faut savoir pour jouer le violon. On a vu hier avec Claudia Hoffmann comment apprendre, comment s'approcher de ce langage. Mm-hmm. Et aujourd'hui, l'invité, c'est Manfredo Kremer, qui a donné aussi un concert donc, lors de ce festival gruyérien.
Manfredo Kremer qui appartient à cette nouvelle génération de ce qu'on appelait, avec un peu de condescendance, les baroqueux. C'est vraiment quelqu'un qui a intégré cet art dans son art.
Voilà, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de violonistes de cette génération, de Manfredo Kremer, qui joue avec les plus grands ensembles, avec Jordi Savall, et qui a fondé lui-même plusieurs ensembles, dont le Rare Fruits Council. Oui. Et Manfredo Kremer, donc, lui, joue dans cette patte baroque de façon tout à fait naturelle. Et je lui ai demandé, puisque je l'ai rencontré lors de cet atelier de musique ancienne de Gruyère, s'il avait un intérêt particulier pour la lutherie.
Bon, forcément, je n'oserais pas dire que je suis un expert dans les instruments, la lutherie en général, mais bon, ça m'a intéressé. Et par hasard aussi, il faut dire que mon frère, il est luthier. Donc, très, très souvent, on se pose des questions ou on a fait des petites recherches ensemble. Mon début dans cette espèce de lutherie amateur, c'est dû au fait que quand j'ai commencé les violons baroques en Argentine, c'était complètement en autodidacte à l'époque. Il n'y avait rien en Argentine, donc on devait se renseigner par des livres, par des photos, en regardant les rares instruments qu'on voyait. Et l'archet, bien sûr, aussi, pas seulement le violon, pour voir quelles étaient les différences entre un violon moderne ou classique et un violon baroque, et voir quelles sont les différences qui sont vraiment porteurs d'une différence dans le son et quelles sont les différences qui sont plutôt cosmétiques.
Et votre frère est luthier en Argentine, il fabrique des instruments anciens aussi ?
Il ne fabrique pas, il restaure, il est plutôt archetier, mais il restaure, il ré-baroquise des instruments. Il a fait des travaux pour moi, pour beaucoup de collègues, etc. Oui.
Et l'instrument qui est construit ici à Gruyère cette semaine, se fait d'après un modèle de Maggini. Est-ce que c'est un luthier dont vous avez entendu le nom ? L'école de Brescia, ça évoque des choses ?
Oui, oui, ça évoque le vœu d'en avoir un jour. Oui, ce sont des instruments magnifiques, Maggini ou Amati, ou personnellement aussi, j'ai un amour spécial pour Steiner. Ce sont les sortes d'instruments, je dirais, vraiment le rêve d'un violoniste baroque, plutôt que peut-être un Stradivari ou un Guarnieri, non? C'est l'époque du XVIIe, les grands maîtres de l'école bresciana et cremonaise. Oui.
Donc c'est les premiers luthiers, les prédécesseurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre un violon de 1600 et un violon de Stradivarius un siècle plus tard?
Il y a un peu de différence, mais quand même il faut dire que les Stradivari, dans l'état où on les connaît aujourd'hui, ce n'est pas l'état à l'époque non plus. Mais ce sont des instruments, Steiner par exemple, ce sont des instruments qui se caractérisent pas encore pour une grande puissance, mais pour un son très spécial, très, très adapté à la musique de chambre, je dirais. Même si bien monté, bien traité, ce sont des instruments aussi perçants et forts, mais le but n'est pas encore comme chez Stradivarius et Guarnieri de faire des instruments on dirait, destinés à remplir des salles plus grandes, n'est-ce pas?
On jouait le violon en plein air au XVIIe siècle, c'est d'abord un instrument de danse dans les origines.
Oui, non, je dirais pas plein air. Dans le plein air, c'est l'harmonie. Ce sont les cuivres, les trompettes, les sacs-boutes, etc. Et en plein air, quand on le faisait sans doute, ça posait les besoins de que ça soit une grande orchestre. Là, on comptait dans ce cas une vingtaine de violons au moins. Non, c'est plutôt... Vous savez, les origines du violon ne sont pas du plein air, mais de la taberne. C'est un instrument, comme dit Francesco Rognoni, au début du XVIIe siècle, âpre et dur. Et c'est ça un peu ce qui a empêché au début son entrée au high class, au salon. Ce sont moins perçants, plus adapté, comme vous bien disiez, à la danse, et très différent du son recherché, presque secret, intime, des viols de gambe. Bon, ça, ce sont les origines, mais...
Et vous, Manfredo Kremer, quel instrument avez-vous? Qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous avez joué hier soir dans ce concert de Gruyère?
Mon instrument est probablement un instrument anonyme allemand du 18e siècle, oui, environ 1734. Mais je ne me suis pas renseigné trop, vous savez. L'étiquette dedans dit David Teckler, ce qui est très improbable, parce que David Teckler est quelqu'un de très recherché, très cher, très important. Il était luthier à Rome, un Allemand qui est déménagé et a fait son travail à Rome surtout. Pour moi, c'est un instrument trop... Quand on dit trop bon marché pour être vraiment un Teckler. Ceci dit, il faut avouer, malgré les luthiers eux-mêmes qui peut-être ne seront pas très, très d'accord avec moi, ils ne se mettent pas d'accord eux-mêmes très souvent. Les experts, un qui dit c'est ça, l'autre non, c'est pas ça du tout. Et j'ai posé la question à quelques luthiers, quelques deux, trois, et après. Je ne m'en suis pas occupé puisque je n'ai pas entré à vendre mon violon. Et puisque mon seul but, c'est qu'ils sont bien. Et ils sont bien, et voilà, ça suffit.
Mais vous jouez de différents instruments suivant les concerts. Vous avez l'occasion de jouer des instruments de musée ou de changer d'instrument selon le répertoire que vous faites?
J'ai eu de diverses occasions de jouer, par exemple, au Metropolitan Museum à New York. J'ai enregistré sur deux instruments que le musée avait, je ne sais pas s'ils les ont encore, un Stradivari et un Amati qui ont été remontés baroque. Surtout l'Amati était un instrument très intéressant. Le Stradivari n'était probablement pas un de très grands instruments. Non, je ne sais pas si déjà quelqu'un a osé de baroquiser un de vraiment fameux Stradivari. Autrement, j'ai joué parfois des copies aussi. Par exemple, je joue assez souvent avec une copie faite par un luthier argentin qui habite Crémone et qui est très reconnu dans le domaine des instruments baroques maintenant, des viols de gambe aussi, Eduardo Gore. Et lui, il fait plusieurs copies. Carlo Bergonzi, par exemple, pour moi, il a fait une copie d'un Stradivari 1709. Et monter vraiment un baroque en utilisant des plans originaux de Stradivari, donc un résultat très intéressant.
Est-ce qu'il y a une préférence alors de jouer aujourd'hui une copie bien faite, donc à l'origine, comme le faisaient les baroques, ou de jouer vraiment un instrument qui est quand même chargé d'histoire et qui sonne mieux? Est-ce qu'un violon prend de la qualité avec l'âge, avec les années?
Ça, c'est un thème très compliqué, très difficile, philosophique presque. Un beau instrument ancien a un son incomparable. Mais ceci dit, il y a des instruments modernes, je les ai essayés, qui sont très 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 bien aussi. Et je crois qu'il faut leur donner une chance. Parce que là se pose comme je disais, la question philosophique, c'est que ces instruments, à l'époque, étaient neufs aussi. On peut presque risquer la théorie de que un instrument baroque à l'époque sonnait plutôt comme un instrument fait aujourd'hui. Et donc là, on peut discuter des heures. Mais il n'y a aucun doute qu'un instrument, avec l'âge, s'améliore. Pas seulement avec l'âge, avec un bon traitement. Il faut bien les soigner, les travailler, les imprimer presque. L'instrument reçoit une empreinte de quelqu'un qui le travaille bien, qui le joue bien ou qui essaie de travailler très soigneusement sur cet instrument. Et ça porte des conséquences. Là, on peut dire, oui, les instruments modernes sont peut-être un désavantage puisqu'ils ont une vie encore très courte, mais on peut le travailler soigneusement et arriver très vite à un résultat très satisfaisant. Oui.
Mais par exemple, pour le violon qui vient d'être construit maintenant, il faudra le jouer d'abord un peu comme un instrument d'étude, et ce sera qu'à partir de combien de temps environ, Manfredo Kremer, qui pourra atteindre son meilleur?
Voyons, l'instrument est fini ou fait à l'atelier. Je ne l'ai pas essayé ni vu, mais j'ai vu un autre instrument fait par
Pierre-Louis, le luthier.
Pierre-Louis, le luthier, le professeur. Et ça, c'est déjà un instrument qui est prêt. Ils sont très bien, très équilibrés, un beau son. Et c'est un instrument qu'on pourrait déjà utiliser comme instrument de concert sans problème.
Dans votre programme d'hier soir, Manfredo Kremer, vous avez joué de la musique ancienne et vous avez fait une partie aussi de musique argentine de l'époque du XXe siècle, de tendance populaire un peu des compositeurs de tango. Vous avez utilisé le même violon pour les deux parties?
Oui, le violon a été amené par les conquistadores, ou disons les colonisateurs plutôt après, et surtout par les jésuites dans Sud-Amérique. À cette époque-là, sans doute, c'était des instruments baroques, des cordes en boyau. De temps en temps, on cherchait des solutions différentes aux problèmes qui posaient l'environnement. Par exemple, j'ai joué hier quelques pièces brésiliennes avec un instrument qui s'appelle rabeca. C'est une espèce d'adaptation très très libre faite par les créoles, par les luthiers créoles, à partir du violon, bien sûr, avec les matériaux qui étaient plus répandus, oui, qu'on trouvait plus facilement sur place, ou qui étaient presque congénial avec le but. Par exemple, ils ont là fait le violon de bambou, puisque c'est très très facile, on le coupe en moitié, on colle une table dessus et on a déjà la caisse de résonance. Et ce violon-là utilisait la rabeca depuis très longtemps déjà, presque de ses origines, des cordes en acier ou laiton ou n'importe quoi, en tout cas pas de boyau, parce que à cause de l'humidité des climats tropicaux, ils se cassaient très vite, ces cordes là donc on a cherché à trouver des solutions déjà depuis très longtemps pour des problèmes spécifiques de l'environnement. Pour dire quelques mots sur le tango en Argentine, Et je crois que pas seulement là. On a utilisé des cordes en boyau jusqu'à la, au temps d'entre-guerres. C'est pendant et surtout après la Deuxième Guerre qu'a été commencé à être utilisée la corde mise en acier, par exemple. Donc ce n'est pas une chose si nouvelle. J'ai des cordes chez moi faites en Argentine dans les années 50 en boyau, qui étaient les cordes plus populaires de mi, et que d'un jour à l'autre sont disparues les traditions, etc. Et on imagine que ça doit être un passé préhistorique, et ce n'est pas le cas.
Et on a perdu beaucoup de savoir-faire. C'est difficile aujourd'hui de refaire des... Ou bien on a des bons fabricants de cordes en boyau. C'est un des problèmes majeurs de la lutherie aussi.
On a certes ce problème que les traditions, malheureusement, une fois coupées ces traditions, ou mortes ces traditions, c'est très très difficile à la faire revivre. C'est question de une ou deux générations pour qu'un savoir-faire se perd absolument. Mais depuis le début de cette renaissance, je dirais depuis une vingtaine d'années, au moins de ce que je peux être témoin, les cordes se sont améliorées beaucoup. Et c'est pas la même chose qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Ils continuent encore, on continue à faire des recherches pour améliorer ou pour trouver ce que c'était probablement un savoir-faire extraordinaire dans le baroque. Mais déjà, les résultats sont très satisfaisants. Oui.
Et après, ahí no está más, después el tararara, pam, para empezar en el 2. Va directamente, ¿no? No tiene más. Tira, tira, tira.
No,
tira,
claro. Sí, va directamente. Ahí, claro, ahí.
Hacemos el 1 como segunda vez.
Dale.
Manfredo Kremer, il vous arrive de jouer des répertoires récents sur des violons entièrement montés modernes, avec des cordes en métal et avec des archets modernes?
Non, pas vraiment. Je fais, je sais pas, peut-être je sors de ma caisse deux fois par an un violon moderne. C'est plutôt pour faire des expériences avec des musiques contemporaines ou tango, des tango contemporain avec des amis, etc. Mais le travail ne me laisse pas, malheureusement, le temps pour le faire. Par contre, je suis en train de travailler un programme des œuvres des compositeurs argentins qui vivent en Argentine et aussi en France, des compositions pour violon et son électronique, et violon baroque. Donc, heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir appliquer dans le domaine du contemporain, le violon baroque. Ça, c'est très, très bon.
Parce qu'il y a un certain travail au niveau de l'ornementation, de l'articulation, qu'on apprend quand on étudie le style baroque, qu'on n'arrive pas à faire vraiment sur des instruments modernes, avec un archet contemporain.
Non, oui, mais on peut arriver à le faire. Ça, c'est intéressant de remarquer. Mais au début, si on veut commencer à faire de la musique baroque, et comprendre le style et l'ornementation, tout ça que vous disiez, je crois qu'au début, c'est absolument nécessaire d'utiliser l'archet, ça c'est fondamental, et les cordes en boyau, quelques petits détails qui sont très, très, très typiques d'un violon baroque. Ça, il faut absolument. Pourquoi? C'est comme si on voulait apprendre un nouveau métier avec un handicap très très grand, par exemple, je sais pas, courir avec des sacs de sable dans les jambes, c'est simplement, c'est trop difficile de voir dans la nature de la chose si on n'a pas les matériaux adéquats. Après, par contre, une fois qu'on peut dire qu'on s'est approprié un vocabulaire, un idiome, une grammatique, que vraiment on pense qu'on maîtrise cette langue et que l'oreille est devenue un assez sévère juge, où il ne faut pas maintenant, après chaque phrase, consulter un livre, un dictionnaire, ou je sais pas quoi, un document ancien, un traité pour voir si c'était bien. Une fois achevé ça, je crois bien qu'on peut retourner au violon moderne, même à l'archet moderne, et on sauvera pas mal de choses de ce style de jouer. Donc je ne crois pas que ça soit idéal, mais je trouve que très souvent, ça peut porter à des solutions assez satisfaisantes, assez intéressantes, parce qu'il faut remarquer que la question baroque, non baroque, moderne ou non moderne, ce n'est pas exclusivement une question de la lutherie ou de l'archet, mais de la façon de jouer. On trouve malheureusement très souvent maintenant des violonistes ou des instrumentistes des cordes modernes qui croient qu'en changeant la corde mi en boyau et s'achetant un archet baroque, ça sera de la musique baroque. Et rien de plus faux que ça. Et c'est plutôt, comme je disais, le contraire. Il faut s'approprier d'un idiome, préférablement avec l'instrument qu'il faut, donc baroque. Et après, on peut peut-être sauver à l'autre côté de la rivière, donc du côté du violon et l'archet moderne, quelque chose de ce style, non? Mais on ne peut pas penser que seulement en changeant l'instrumentarium et l'archet, que ça deviendra baroque.
La question Manfredo Kremer, il me semble qu'on voit beaucoup dans le monde précisément de la musique baroque et de la musique ancienne, aujourd'hui en Suisse, dans les pays alentours, beaucoup de musiciens argentins qui sont sur le devant de la scène. Je ne sais pas si c'est une vision que vous partagez. Et il y a une grande communauté d'Argentins qui sont à la pointe de l'interprétation baroque. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que je me trompe?
Non, c'est bien sûr le cas. Depuis longtemps qu'il y a un mouvement de renaissance de la musique ancienne, non? En général aussi inclus la renaissance. Sauf que les problèmes politiques éternels de l'Argentine ont empêché que ça soit quelque chose de plus qu'éphémère. Il y a en permanence des nouveaux musiciens et on a là-bas un intérêt énorme. On a aussi, malheureusement, une émigration très grande. Mais on a aussi un retour assez important des musiciens. Soit ils redéménagent là-bas, ou qui essaient d'être un peu des deux côtés pour porter là-bas ce qu'ils ont appris ici. Mais c'est vrai que c'est un phénomène très particulier. Peut-être dû au fait que l'Argentine est le pays de Sud-Amérique le plus européen qu'on puisse imaginer. Donc, il y avait une tradition très européenne, europaphile, philo-européenne, vous savez, Théâtre Colonne et tous les chanteurs qui venaient. Ça, c'est, il n'y a rien de comparable dans la Latino-Amérique, même Chili. Que, là, c'est peut-être une question géographique d'abord. Et plus au nord, le pays était plus dépendant ou avec une orientation vers les États-Unis. Par contre, l'Argentine a été toujours assez européenne et a pris assez vite toutes les nouvelles qui venaient d'ici. Et ça, c'est le même cas avec la musique ancienne.
Il y avait des instruments qui étaient accordés différemment que les quatre cordes habituelles, mi, la, sol, ré, mi, la, ré.
Pas la violette, hein, mais il y avait, oui, la famille était plus grande que juste les quatre instruments de notre quatre cordes. De cordes. Il y avait certains types de violettes.
Intermédiaires entre
violettes. Oui, que souvent est quand même accordé de la même façon, mais c'est une couleur...
Ça a été remplacé par le deuxième violon dans l'orchestre.
Voilà, hein? Oui, oui.
Avant, ils ont eu un moment les quatre.
Et il y a aussi, bien sûr, l'alto tenore, non? La viola tenore. Qui
était entre l'alto et le violoncelle, alors aussi.
Oui, oui, ça peut être un truc très grand, non?
Qui sonnait à l'octave basse du violon, alors.
Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'était je crois que là, il y avait différents accords possibles pour l'alto tenore. La viola tenore. Il y a la fameuse la Medicea de Stradivari qui est très très grande. Je ne sais pas combien ça de. Mais c'est peut-être 40, 48. Un truc ouais, très très grand. Oui.
Accents de répétition. Ce qu'on va faire maintenant dans Musique en mémoire, grâce à vous David Mestri, c'est retourner au concert donné par Manfredo Kremer et Eduardo Eguez. C'était en ce mois de septembre, lors du 4e atelier de musique ancienne de Gruyère, donc en l'église de Gruyère. Et nous écoutons maintenant des pages de Francesco Geminiani, de Johann Schopp et d'Antonio Bertali.
Thank you.
Francesco Geminiani, Johann Schopp et Antonio Bertali, trois des compositeurs présentés par le duo composé de Manfredo Kremer et Eduardo Eguez lors du récent atelier de musique ancienne de Gruyère. Dans cet atelier, David Mestri, il y avait ceux qui s'exprimaient à votre micro, mais il y avait aussi les musiciens qui simplement se donnaient en concert.
Voilà, il y a eu 5 concerts tout au long de la semaine et l'un d'entre eux était donné par l'ensemble suisse Granville, l'ensemble Granville autour de la oboïste Kerstin Kramp, que je vous propose d'écouter pour terminer cette émission dans une sonate de Jan Dismas Zelenka.
Kerstin Kramp et ses musiciens de l'ensemble Granville dans cette sonate en trio en si bémol majeur de Jan Dismas Zelenka. pour conclure cette émission qui peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson et cette semaine sur une réalisation de Dominique Stalder. Et c'est une proposition de Jean-Luc Ritter.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24. Notre adresse internet espace2.ch.
L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit en nouvelle diffusion sur Espace 2. Mais nous, c'est demain à 9h que nous avrons rendez-vous avec vous, David Mestri. Vous nous emmènerez de nouveau pousser la porte de cet atelier du violon baroque. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments, pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.